Nous voici donc arrivés à notre troisième message sur la prière. Et pour commencer, j'aimerais prendre avec vous une partie de texte que l'on trouve dans ce que l'on appelle le sermon sur la montagne. Donc c'est un enseignement de Jésus qui se trouve en Matthieu 7, les versets 1 à 12. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Alors on s'est rappelé cette semaine, dans plusieurs groupes, et même la semaine passée je pense, que dans toute lecture biblique, quand on lit un texte biblique, il faut se poser, sans être théologien pour autant justement ou exégète, il faut se poser deux questions, si on en tout cas profiter pleinement de sa lecture. La première de ces questions c'est, et non, c'est exactement le cas dans ce cas-ci, est-ce que je comprends ce que le texte dit? Autrement, est-ce que je comprends ce que Jésus dit ici? En d'autres termes, ce qu'il attend de moi. Alors cette question est importante car il existe bien des textes dans la Bible dont la compréhension est parfois entravée par toute une série d'éléments contextuels qui nous envoient le sens. Il y a des textes bibliques, il faut des éléments, des outils, des matériaux d'interprétation, parce que sans ça, on va avoir du mal à atteindre le sens profond du texte. Mais dans ce cas-ci, et ça va peut-être nous embêter, il n'y a pas besoin d'éléments contextuels. Pour le dire autrement, il suffit de faire ce que Jésus dit. C'est clair, non? Ben, si c'est clair. De là à le mettre en pratique, encore une fois, il y a un peu de distance. Il y a une seconde question qu'il faut se poser également. C'est là, en fait, après cette première question qu'il faut se poser la seconde, que dois-je faire pour obéir à ce que Jésus me demande? Ou, pour le dire autrement également, comment est-ce que je peux faire pour vivre, pour répondre à l'enseignement de Jésus? Dois-je essayer plus fort? Dois-je me forcer? Dois-je me frapper? Dois-je me flageller? C'est ce que certains ont fait à certains moments de l'histoire de l'Église. Je pense qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça parce qu'il y a un secret dans le sermon sur la montagne, dans l'enseignement de Jésus. Un secret qui est clair. C'est qu'au milieu du sermon, donc dans Matthieu, il prend les chapitres 5 à 7, au milieu du sermon sur la montagne, en plein milieu, comme une sorte d'élément de bascule, il y a le Notre Père. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous que Jésus était un peu juif quand même, et que quand un enseignant juif enseigne ou qu'il écrit, son argumentaire, le centre de son développement, se trouve toujours au centre de ce qu'il dit, au milieu du texte. C'est ce qu'on appelle une structure chiasmique. Contrairement à nous qui sommes issus de la pensée grecque, où il y a une introduction, une hypothèse, une thèse, un développement et une conclusion. Donc nous, l'important, on va toujours chercher la conclusion, l'impact, la finalité de l'enseignement, on va toujours chercher à la fin du texte. Les Juifs savent ce qui est important est toujours au milieu. C'est-à-dire comme ça qu'il faut lire le livre de la Genèse, le premier livre de la Genèse. Quand vous prenez la création du monde en 7 jours, posez-vous la question de savoir qui est dans une séquence de 7. Quel est le centre? C'est le 4e jour. Eh bien, vous irez voir cette semaine, vous avez le temps, ce que Dieu a créé le 4e jour. Parce que c'est ce qui donne la bascule dans ce texte-là aussi. Donc ici, au centre du sermon, de cet enseignement fondamental de Jésus, il y a le Notre Père. Ce que ça veut dire, ce que Jésus nous dit donc à travers cette présence du Notre Père, c'est que toute relation entre nous et Dieu ou entre êtres humains comporte deux aspects fondamentaux. Un aspect demande et un aspect réponse à la demande. Alors, ça vous vient peut-être pas à l'esprit, mais que vous soyez en relation avec un enfant, parce que vous en avez, que vous soyez en relation avec votre femme, votre mari, vos amis, vos collègues, il y a toujours, même inconsciemment, toujours une dimension de demande et une dimension de réponse à la demande. Donc, toute relation humaine repose sur ces deux pôles. Et c'est d'autant plus vrai quand c'est une relation d'amour dont on parle. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, il est une donnée que nous ne devons pas perdre de vue, une donnée qui est justement au cœur de toute relation, comme Dieu la conçoit, c'est que donner n'est pas imposer. Ça signifie que pour cette raison, contrairement parfois à ce que nous pensons, Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin si nous ne lui demandons pas. Il n'y a rien d'automatique, parce que si ça devient automatique, nous ne sommes plus en présence d'une relation. Alors, je sais bien que le prétexte parfois avancé pour ne pas demander à Dieu ce dont nous avons besoin, c'est de dire, ben, comme il sait tout, je n'ai pas besoin de lui demander. Oui, mais le seul problème, puisque l'on sait que, basiquement, la prière est demande et requête adressée à Dieu, si on a cette conception-là, on ne demandera jamais rien et on n'obtiendra pas grand-chose non plus, forcément. Donc, la prière étant par essence requête, il est excessivement dangereux de considérer que nous n'avons rien demandé à Dieu sous prétexte qu'il sait tout. Donc, cette prière du Notre Père qui est au centre du sermon est on ne peut plus clair sur le sujet, puisque si vous en souvenez bien, on va passer dans le même souffle d'une demande concernant le règne de Dieu. C'est très spirituel, ça, hein, que ton règne vienne. Il n'y a qu'un disciple qui peut demander ça, quelqu'un qui est un intime de Dieu, pas quelqu'un qui s'est installé ici pour toujours, hein, qui a l'impression qu'il va, il va vivre 3000 ans sur la terre, hein, qui s'occupe de ses petites affaires. Il faut être un disciple proche de Dieu pour invoquer la venue du royaume. Et dans la phrase après, il dit « Donne-nous notre pain quotidien ». On parle d'une dimension extraordinairement spirituelle à une dimension qu'on considère quand même comme relativement basique. Notre pain quotidien. Franchement, on a après. Pourquoi est-ce qu'il passe de l'un à l'autre? Parce que les deux choses sont importantes. Toutes choses, on doit les demander à Dieu, du plus spirituel au plus basiquement matériel. Ce qui veut dire que pour Jésus, tout est prière, tout est spirituel et tout dépend de Dieu. Même votre pain quotidien. Alors je sais bien que dans nos pays occidentaux, on est quand même encore un peu dans la dimension d'opulence. On passe à table, voilà, et puis on mange, on va pas commencer, ça fait, moi, qu'est-ce que je dois acheter comme course? Mais, je pense que si on prie avant le repas, logiquement, c'est pas pour rien. C'est pour réaffirmer la dépendance totale de notre être par rapport à Dieu. Il n'y a rien de systématique, en fait. Donc, chaque repas est une occasion de prier et de reprendre conscience de cette réalité première, que tout vient de Dieu et qu'il aime donner ce qu'on lui demande. Si Jésus parle d'une dimension, passe d'une dimension spirituelle à une dimension matérielle, c'est bien pour nous, encore une fois, nous réaffirmer que tout est spirituel, mais également que nous ne devons pas scinder, pas créer de bulle entre notre existence relationnelle, entre être humain, et notre existence relationnelle avec Dieu. C'est une même dimension. Et ce que Jésus dit aussi, c'est important, c'est que la prière est donc la bonne façon, toujours, d'interagir entre deux êtres. Vous remarquerez que dans cette prière, pardon, dans ce texte du sermon en Matthieu 7, vous remarquez que Jésus passe, avec assez de légèreté d'ailleurs, me semble-t-il, de ce que nous attendons des autres à ce que nous attendons de notre Père qui est aux cieux, parce que nous avons des attentes par rapport aux autres aussi. Donc le Christ enseigne clairement que ces deux relations, nous et les autres, et nous et notre Père, se situent en fait sur une seule et même ligne. En d'autres termes, notre relation spirituelle avec Dieu et notre relation humaine avec les autres sont une seule et même dimension, puisqu'à présent, nous qui sommes chrétiens, nous faisons partie de ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et le royaume étant au milieu de nous, nous devons donc, comme je l'ai dit, éviter de créer des bulles qui sépareraient nos relations avec les autres d'un côté et nos relations avec les autres de l'autre. Ça signifie donc aussi, et c'est fondamental, que la prière doit habiter également notre rapport aux autres. Un chrétien ne peut pas être en rapport avec les autres sans que la prière y soit engagée. Petite pensée qui m'est venue en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, même si vous voyez votre meilleur ami toutes les semaines pendant plusieurs heures, vous aurez toujours plus de temps pour prier pour lui que pour être avec lui. La vie du royaume doit devenir plus présente que notre propre présence aux autres. Elle doit s'incarner en nous par la prière. Nous ne devons donc pas adopter une attitude envers Dieu et une envers les autres hommes. Nous sommes des hommes du royaume, des hommes et des femmes unifiés et notre personnalité imprègne tout ce que nous faisons. Et dans cette personnalité, Jésus dit, la prière doit y être présente. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que Jésus, pour approfondir cette pensée, qu'il n'y a pas de scission entre les relations humaines et les relations qu'on peut avoir avec Dieu. Il va prendre l'exemple d'un père qui répond à la demande de d'un de ses enfants ou de ses enfants, de lui donner à manger. C'est basique ça quand même, hein. Papa j'ai faim, maman j'ai faim, voilà. Et Jésus va dire même, parce qu'il n'est pas aveugle Jésus, il connaît le cœur de l'homme, même si vous êtes méchant, c'est-à-dire imparfait, bourré de défauts, en dessous de tout à beaucoup de moments, vous allez donner à vos enfants le meilleur quand on en vient aux besoins vitaux. Alors bien entendu, il reste les exceptions. Ces méchants hommes qui sont capables de donner le pire à leurs enfants, hein, de leur donner un serpent quand ils demandent du pain ou du poisson, malheureusement, ces monstres existent, mais ce n'est qu'une exception. Les autres, logiquement, les autres parents, la norme parentale, même les gens qui ne carburent pas trop au niveau du chapeau, ben, ils vont quand même essayer de faire le maximum pour donner le meilleur à leurs enfants tous les jours. Ce que Jésus met en exergue, c'est que cette relation première pour les besoins fondamentaux doit aussi nous habiter en permanence quand on en vient à parler de notre relation avec Dieu. Nous devons retrouver cette dimension enfantine, cette dépendance totale de Dieu. Il y a donc, et ça c'est important de le comprendre, parce que ça va peut-être nous aider à prier plus et mieux et plus profondément. Il y a en fait, et c'est ce que Jésus veut dire, il y a une puissance liée au fait de demander qui habituellement sécurise celui qui demande. Un enfant, même si son père est hyper dur, hyper sévère et qu'il en a un peu peur, s'il a faim, il va quand même demander à son père de lui donner à manger et son père lui donne. Il sait que le fait de demander va suffire à ce que son père entende sa demande et lui donne ce qu'il demande. Autrement dit, il y a une puissance dans le fait de demander. Et cette puissance, vous allez comprendre ce que je veux dire, hein, cette puissance est même tellement forte à certains moments qu'elle peut même nous mettre mal à l'aise. Ça vous est jamais arrivé de changer de trottoir en voyant que vous alliez croiser une personne qui risquait de vous demander quelque chose? Ben, beaucoup de gens traversent quand il y a un SDF, par exemple. Ils traversent. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir tenir l'impact de la demande du gars par terre et de sa main tendue. Alors, il y a probablement des gens qui n'en ont rien à foutre de rien, qui vont marcher dessus, mais beaucoup vont être embêtés par ça. Ils vont souvent changer de trottoir pour ne pas être surexposés à la demande de l'homme. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Vous en inventerez d'autres. Alors, moi, il y en a un, pourtant, j'ai pas de bête à la maison, mais il y en a un qui m'est venu à l'esprit, hein. Vous avez déjà essayé de manger un sandwich au roast beef devant le chien de la maison? Vous avez droit à ça. Alors, si vous avez encore moins de chance, il met sa patte sur votre cuisse. Devinez comment ça se termine. Moi, je vous dis que le sandwich au roast beef, il va terminer dans son estomac, lui, et pas dans le vôtre. Il y a une puissance là-dedans. Hein? Allez, franchement. Et pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique, vous rappelez du chapoté dans le dessin animé des Shrek avec l'ogre. Quand le chat, pourtant c'est un chat avec une épée qui se bat, etc., qui est très, hein, c'est un peu un D'Artagnan félin. Et chaque fois qu'il veut obtenir quelque chose, il enlève son chapeau et il fait des yeux, mais des yeux. Oui, bon, ça va, ok. Et il reçoit tout ce qu'il veut. Donc, il y a une puissance dans la demande. Et c'est important pour nous parce que c'est valable dans notre relation à Dieu aussi. Il y a une puissance dans ce que nous demandons. Parce que si un père méchant est très peu capable d'encaisser la puissance de la demande sans l'exaucer, imaginez un père parfait. C'est intéressant, ça, hein. Donc, à l'analyse, Jésus nous dit que dans nos relations, la demande en elle-même suffit souvent à obtenir le résultat désiré. Et il fait appel à l'expérience des gens qui l'écoutent, hein, et à la nôtre. Ça va être très bien que ça marche comme ça. Sauf bien entendu si les relations sont blessées, endommagées par une histoire, etc. Hein. Il arrive aussi bien entendu que certaines requêtes soient refusées. Les parents, ça, j'espère que ça vous arrive. Hein. Et ce, pour de très bonnes raisons. Mais quand même, la règle générale, c'est qu'il y a une puissance dans la demande et qu'on écoute, on entend et on reçoit la demande. Et c'est pour cette raison qu'il va passer de ces fameux hommes méchants, donc ces parents qui sont loin d'être parfaits et qui donnent pourtant ce qui est nécessaire à leurs enfants. Je vais relire le verset 11. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volonté de bonnes choses à ceux qui lui le demandent. » Il ne faut même pas réfléchir à ça. Jésus dit « Si vous demandez à votre Père, il vous donnera. » Mais il faut demander avec foi, hein, il vous donnera. La semaine prochaine, j'ai rééquilibré tout ça, mais en attendant, c'est la base. Hein. Votre Père veut vous exaucer. Il faut vraiment que ça s'imprime, ça, hein, parce que je sais que c'est souvent pas le cas. Verset 12, je relis, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. » N'oubliez pas la loi, hein. Le discours prophétique, bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de prophètes dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, c'est très basique. Hein. Fais grâce, mets l'impact prioritaire sur la veuve et l'orphelin. Donc, sur les demandes, les besoins fondamentaux des plus fragiles. Voilà. Dans le verset 12, en fait, Jésus exprime le besoin le plus fondamental de l'être humain, à part manger. Et ce besoin, c'est d'influencer positivement la vie des autres, de ceux qui nous sont chers. Concernons-nous, on essaie toujours d'influencer, d'amener du bien, du meilleur dans la vie de ceux que l'on aime. Et il y a une question sous-jacente à cet enseignement de Jésus, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire ça, moi, influencer positivement la vie des autres, la vie de mon ami qui va très mal, et je suis un peu déboussolé devant ce mal-être, parce que moi je ne sais vraiment pas ce que je peux faire. Et Jésus dit, la seule façon dont vous pouvez influencer positivement la vie des êtres que vous aimez, c'est en priant pour eux. C'est le seul chemin sûr pour que le bon que nous pouvons accomplir dans la vie de l'autre s'accomplisse vraiment. Pour le dire autrement, même dans la relation que nous avons avec des êtres que nous aimons profondément, il y a trop de nous dans les relations. Uniquement de nous. On doit être là, on doit les aimer, on doit les encourager, bien sûr. Mais nous sommes trop présents, nous tout seuls. J'ai expliqué ça. Si nous nous contentons d'aider, de ne compter que sur nous-mêmes, mes amis, même en les aimant, hein, notre amour à nous, purement à nous, dans certains cas, nous allons faire pire que mieux. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que donner, ce n'est pas imposer. Je n'ai pas imposé mon amour à l'autre, je n'ai pas imposé ma foi à l'autre, mes objectifs, mes souhaits pour sa vie, aussi bon et généreux soit-il, mais à l'offrir comme un don de ma vie et de la présence du Christ dans ma vie. Donc, si je dois résumer ça, je n'aime pas résumer parce que c'est parfois un peu facile, notre confiance en Dieu est la seule chose qui rende possible le fait de traiter les autres comme ils devraient être traités. Notre confiance en Dieu est la seule chose qui rende possible le fait de traiter les autres comme ils devraient être traités, avec amour, respect pour ce qu'ils vivent, même si ce n'est pas malin, pour les choix qu'ils font, même si ce sont de mauvais choix. Parce que parfois on a raison en disant « là c'est vraiment une connerie hein, ». Mais voilà. Le simple fait de le dire ou d'être présent ou de « oui mais c'est pas… » Je ne dis pas qu'il faut rien dire. Je dis que si vous vous contentez de dire « vous », sans que Dieu ne rentre dans l'équation, ça ne changera pas grand-chose. Donc, voulez-vous mettre en pratique tout ce que Jésus dit, plus généralement, donc ne plus juger, traiter les autres comme vous voudriez qu'on vous traite vous? Jésus dit, ben, va falloir faire entrer Dieu dans tout ça, les enfants. Il va falloir prier. Il va falloir apprendre la confiance en Dieu. Donc, prier en étant convaincu que Dieu écoute. Et dans le cheminement, je le prie, Dieu, pour qu'il m'écoute et qu'il rentre dans la vie de quelqu'un d'autre, mais je suis aussi changé par la prière. Vous vous rappelez la prière d'Abraham la semaine passée, j'en ai pas fait des tonnes là-dessus, ça aurait été trop long, mais quand après on voit l'évolution d'Abraham, je pense que cet impact, le fait que Dieu écoutait ce qu'il a demandé, il s'est rapproché du cœur de Dieu et sa vision des choses s'est élargie. Il a commencé à avoir plus la vision de Dieu et Abraham a été changé par ça. Il a sûrement pas seulement changé la situation pour laquelle il a prié, il a été changé lui. C'est aussi pour ça qu'on prie. Donc cet enseignement de Jésus sur la requête, sur la demande, le fait de demander, nous emmène en fait au plus profond de la nature de notre vie dans le royaume de Dieu, comme il est présent actuellement sur la terre. Donc cette vie s'exprime aussi bien dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire humaine, que verticale, c'est-à-dire divine. Nulle part dans l'Ancien Testament, vous verrez une scission, donc encore une fois, je le répète, c'est tellement important, entre la relation que nous entretenons avec Dieu et celle avec les autres. Si vous êtes convaincu, relisez l'épître de Jacques. Hein. Quand Jacques dit avec la même bouche, vous bénissez Dieu et vous maudissiez vos frères. Il dit, mes frères, ça ne peut pas arriver. Est-ce qu'une eau douce peut donner de l'eau salée? Est-ce qu'un fruit, je sais pas, un figuier peut donner des pommes? Bien sûr que non. Donc c'est pas possible de dire, oh mais j'aime Dieu et je massacre tout ce qui est autour de moi. C'est pas possible. Ça arrive dans l'expérience humaine, bien entendu. Il y a des chrétiens en dessous de tout, ça, on le sait bien, qui sont désagréables. Comme... Ça existe, hein, ça existe. Et on l'est peut-être nous-mêmes à certains moments, sans savoir, ou même en le sachant. Mais il n'empêche que c'est profondément anormal. Donc, ce que nous vivons avec Dieu, l'humilité, j'espère, hein, quand vous priez Dieu, c'est, il est comme Dieu, vous n'êtes qu'un homme. Donc, ce fait de ne rien cacher, de ne pas commencer à étaler vos qualités, vous êtes plutôt... Apprendre l'humilité, donc... Cette relation-là, vous devez l'entretenir avec les autres. Ce que vous devenez dans votre relation à Dieu, il faut que ça ait un impact avec les autres. C'est pas possible autrement. Ça, c'est pas très compliqué d'être humble avec Dieu. On n'a pas le choix. Ce serait idiot d'essayer. Mais si on devient humble avec Dieu, il faut forcément qu'on soit humble avec les autres. Donc, et bon, ça va être la partie la plus compliquée. J'espère que je vais être clair. La nature du royaume qui est là parmi nous, souligne en fait que nous ne sommes jamais seuls dans notre relation à l'autre. Nous vivons souvent notre relation aux autres seuls. C'est une erreur. Parce qu'entre nous et l'autre, en tant que chrétien, il y a toujours le Christ. Il doit y avoir toujours le Christ. En médiateur, bouger le tampon si vous préférez. Aucune de nos interactions ne devrait jamais omettre la présence du Christ. Et il est toujours là, hein. Mais ça ne change pas grand-chose si nous ne conscientisons pas qu'il est effectivement présent dans nos relations. Donc, je vais essayer d'être un peu plus clair. Je ne pense jamais à aucun d'entre vous, simplement en me disant qu'est-ce que je vais faire de vous, qu'est-ce que je vais faire avec vous, ou ce que je vais faire pour vous. Parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Aucun. Vraiment, hein, ça ne changera rien pour vous. Je pense à ce que nous, Jésus et moi, moi et Jésus, allons faire de vous, avec vous et pour vous. Parce que c'est lui le Seigneur de vos vies et personne d'autre. De la même manière, je ne pense jamais à ce que vous allez faire de moi, me faire à moi ou faire avec moi. Mais ce que, j'espère, vous allez faire avec Jésus pour moi, avec le Christ pour moi. Parce que même si vous m'aimez très fort, et je ne doute pas que ce soit le cas de certains, on voit toujours, hein, on peut rêver, c'est magnifique et c'est important, bien entendu, hein, ça il faut le redire. On vit pas de, nous sommes pas des êtres éthérés et purement pur esprit. Mais ça va pas changer grand chose à ma vie si le Christ n'est pas dedans avec, hein. Vraiment. Voici comment Dietrich Bonhoeffer rend cette réalité dans un passage de son livre de la communauté. Parce que la communauté, bon, je l'ai traduit de l'anglais, hein, donc, voilà. Parce que la communauté chrétienne est exclusivement fondée sur Jésus-Christ, celle-ci n'est pas une réalité purement psychique dans sa pensée. Psychique, c'est humaine. En cela, elle diffère absolument de toutes les autres communautés. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal que nous devons accomplir, c'est plutôt une réalité créée par Dieu en Christ à laquelle nous pouvons participer. Au plus clairement, nous apprenons à reconnaître que le fondement, la force et la promesse de notre communauté est en Jésus-Christ seulement. Au plus sereinement, penserons-nous à notre communauté, prierons-nous pour elle et aurons-nous de l'espérance pour elle. Moi, ça m'arrive en tant que pasteur de désespérer de certaines situations. C'est important que je désespère à condition que j'aille partager ma désespérance avec Jésus, qui est le Seigneur de l'Église et qui est mort pour le péché du monde. Donc même quand je suis désespéré par la situation d'un ami ou d'une amie qui ne connaît pas le Christ. Ce n'est pas grave d'être désespéré. Ce qui est grave, c'est de le rester. Et ce qui est surtout grave, c'est de tenter par soi-même d'apporter une solution à certaines situations, alors que ce que Jésus nous dit, va prier ton Père pour ça. Parce que si moi j'aime les gens qui m'entourent, mes amis et d'autres, pensez pas que Dieu les aime plus que moi. On aime nos enfants, ben écoute, on ne peut même imaginer à quel point Dieu les aime plus que nous. Mais on perd ça de vue. Donc d'après Bonhoeffer, la qualité d'amour d'une communauté priante est radicalement différente de la forme la plus élevée d'amour humain. Donc il dit que si ça fonctionne normalement, l'Église, en termes d'amour, peut produire un amour que rien sur cette terre ne peut surpasser. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben simplement parce que l'amour humain aime l'autre pour lui-même, même si on prétend le contraire. Il n'y a pas d'amour humain désintéressé. Ça n'existe pas. Mais l'amour spirituel dont il parle, donc l'amour vécu en Christ, aime l'autre à cause du Christ. Autrement dit, si je n'éprouve pas d'amour pour quelqu'un, et ce pour un million de raisons qui me seront personnelles, mes amis, je ne l'aimerai pas du tout. Il me reste indifférent. C'est ce qui explique pourquoi on dit « on ne peut pas aimer tout le monde ». Ben, c'est pourtant ce que Jésus demande. Hein. Et dans le sermon, il dit « vous allez devoir aimer vos ennemis ». Et nous, on lit ça, on dit « ben, c'est pas possible ». Ah non, si tu essaies de l'aimer par toi-même, tu vas jamais y arriver. Parce que par définition, tu n'as pas d'amour. Ton amour à toi, il ne sortira pas, toi, pour cette personne. Quelle est la solution ? Laisser le Christ remplir notre vie et remplir cette fonction de médiateur. Qu'on apprenne à l'aimer comme le Christ, à partir du Christ. Et justement, on va prendre le passage qui est aussi dans le sermon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même ? Alors, les collecteurs d'impôts, il faut le mettre dans le contexte. Là, il y a un contexte, mais en fait, Jésus n'a rien, puisque Matthieu, un de ses disciples, un des 12, était collecteur d'impôts. Ils avaient mauvaise réputation parce qu'ils prenaient l'impôt pour eux et puis ils sucraient, ils prenaient des pourcentages dans leur poche, enfin soit. Puis ils collaboraient, ils levaient l'impôt pour les Romains aussi, qui étaient un peuple d'occupation. Hein, voilà. Ils étaient très mal vus. Jésus les voyait pas mal, mais il dit, en leur balançant ça, ils vont vraiment comprendre ce que je veux dire. Hein. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Ben, aucune. C'est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment. Et encore, hein, on les aime mal. Hein. On les aime mal. Parce qu'on les aime sans le Christ. Simplement parce qu'on a une hiérarchisation des priorités qui ne sont pas très bonnes. Hein. Tous ceux qui ont des enfants ont toujours espéré qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient un bon boulot. C'est pas mal hein, de désirer ça. Par contre, c'est peut-être plus important qu'ils rencontrent Dieu, non ? Pourtant, ça, la plupart du temps, dans la pratique, c'est le cadet de nos soucis. Est-ce qu'on prie pour ça ? Non, on prie pour qu'ils aient un bon boulot. On prie pas pour qu'ils rencontrent le Christ. Hein. Je me trompe ? Je m'attendrai. Hein. Donc, notre hiérarchie d'amour, dans notre amour, elle est complètement biaisée. Les priorités de Dieu pour ceux que l'on aime ne sont pas les mêmes que nous avons. Donc, nous n'arriverons jamais à aimer nos ennemis, ou plus humblement ceux pour lesquels nous n'éprouvons rien ou pas grand-chose, en comptant sur notre seule capacité humaine à aimer. Ça marchera. Enfin, vous avez essayé sans doute, hein, ne fût-ce que pour faire plaisir à Jésus, non ? On va lui me pomper, mais enfin, je vais quand même essayer de l'aimer. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Hein. Notre amour est seul, à nous tout seuls, notre amour à nous, humain, il est trop limité, mes amis. On n'y arrivera pas. C'est même dans les couples, même chrétiens, hein, ça, il y a des trucs qui tournent mal. Pourquoi ? Parce qu'on est égocentrique, parce qu'on pense, hein, on est dans la demande tout le temps. Hein. Requête demande, mais il faut équilibrer ça. La plupart du temps, on attend que l'eau nous rende heureux, sans blague. Pendant qu'on attend, ben nous, on rend personne heureux, mes amis. Donc cet amour humain ou psychique, comme l'appelle Bonhoeffer, recherche le contact direct avec l'autre personne, sans la médiation du Christ. Car il n'aime pas l'autre, on n'est pas conscient de ça, mais il n'aime pas l'autre dans sa liberté, mais comme quelqu'un qui lui est lié à lui, quelque part qui lui appartient. Donc cet amour-là éprouve le besoin d'être irrésistible, le besoin de régner, de diriger, d'imposer quelque part. En fait, le problème, c'est que l'amour humain, il ne comporte que très peu de relations à la vérité. Dans ce genre de relation, la vérité relative est très relative, vu que rien, même pas cette vérité, ne doit venir se mettre entre nous et la personne que nous disons aimer. Cette vérité, c'est Jésus, bien sûr. Donc cet amour, notre amour humain, c'est ce que je disais, est un amour malade de l'absence du Christ. Dans la forme d'amour qui est la plus répandue sur cette planète, notre amour à nous, la vérité c'est toujours au désir, toujours, et au besoin. C'est ça qui conduit la communauté humaine. Donc dans l'amour du royaume, déjà vécu ici-bas, le Christ doit se tenir en permanence entre moi et celui que j'aime. Déjà pour éviter de lui faire trop de mal. Ça serait déjà un bon début, je pense. Vous savez, la plupart d'entre nous sommes chrétiens et nous sommes devenus parce que de toute éternité, Dieu a fait le plan de nous sauver, de nous aimer, de nous sauver. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé en fait ? C'est le Christ. Et son amour. Pensez pas que les autres ont besoin de la même chose. C'est aussi bête que ça. Hein. Je peux sauver personne, moi. J'aimerais bien parfois. C'est impossible. Il y a des sauveurs en psychologie. On sait qu'il y a il y a des modèles, ce qu'on appelle des sauveurs. D'ailleurs, une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, on parle beaucoup des pervers narcissiques, hein, vous voyez les pervers narcissiques. En fait, ils massacrent une seule catégorie de personnes, ce sont les sauveurs. Ils n'ont pas accès aux autres. Donc plus vous êtes sauveur, vous avez cette mentalité de vouloir tout faire par vous-même, surtout dans vos relations humaines, plus vous êtes en danger à beaucoup de niveaux. Entre autres, si votre patron ou votre chef de service est un pervers narcissique. Donc dans cet amour de Jésus, ce qui va être terriblement difficile à faire pour nous qui sommes des êtres humains, et qui va nécessiter beaucoup de temps passé dans la prière et l'abandon à Dieu, c'est d'arrêter d'essayer de réguler la vie de l'autre, d'imprimer une direction à la vie de l'autre, par notre amour. Incroyable le nombre de dégâts qu'on peut faire par amour, mes amis. Pratiquement, cet amour spirituel parlera au Christ d'un frère ou d'un ami, plus qu'il ne parlera à un frère de Christ. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas parler de Jésus. Hein. De temps en temps, il faut. De temps en temps, la porte s'ouvrira, comme dirait Paul. Hein. Ah, je suis resté à Philippe alors que je voulais partir là-bas parce qu'une porte s'est ouverte pour l'évangile. Quand la porte s'ouvre, il faut rentrer dedans. Il faut discerner la porte. Mais il faut surtout, je pense, être très respectueux. Et toute l'inquiétude, parce qu'on a envie de le voir, on a envie de meilleur pour sa vie, ben, il faudra dire ça à Dieu surtout. Est-ce quand vous avez envie de pleurer pour cet ami, pour sa situation, vous pouvez pleurer avec lui, mais ne pleurez pas devant lui quand lui ne pleure pas, hein, pour sa situation. Allez pleurer, allez verser vos larmes devant Dieu, elles auront beaucoup plus d'impact à cet endroit-là. J'en sais quelque chose. Donc, si vous m'aimez, j'ai forcément besoin que vous soyez là pour moi. Il ne faut pas comprendre mal ce que j'ai dit. Hein. J'ai besoin que vous m'écoutiez, que vous preniez soin de moi dans tous les domaines possibles. Mais j'ai aussi et surtout besoin que vous priez pour moi. Que vous soyez prière pour moi. Parce que l'amour du royaume sait que le chemin le plus direct vers les autres est toujours celui de la prière adressée au Christ. Et que l'amour pour les autres est entièrement dépendant de la vérité qui se trouve en Christ. Parce qu'il n'y a qu'en Christ mon amour va être épuré de tout ce qui n'est pas Dieu. Si nous aimons, c'est un des problèmes des relations humaines depuis que le monde est monde, hein. Si nous aimons l'autre à partir de nous-mêmes, mes amis, souvent ça va mal se passer. Parfois on tiendra à deux, hein, mais on tiendra quoi. Ça n'épanouira pas, on tiendra. Nous allons parler de Christ à ceux que nous aimons parce que nous les aimons plutôt que de parler d'eux à Dieu, parce que lui les aime. Et je terminerai en disant ceci, à titre personnel, c'est pour ça que je... 2-3 minutes, je faisais référence au fait que je me suis beaucoup trompé à ce niveau-là aussi, une période de ma vie. À titre personnel, c'est certainement, ça va peut-être vous étonner, hein, mais c'est certainement par amour que j'ai commis les plus grandes erreurs de ma vie. Mais vraiment, hein, vraiment. Parce que je n'avais tout simplement pas compris qu'il fallait laisser Dieu être Dieu dans ma vie et surtout dans celle des autres. Donc, si je devais encore une fois résumer ce que Jésus dit dans ces 12 versets, c'est que notre vie tout entière doit devenir prière, ou cette vie ne sera quelque part spirituellement pas du tout. Aime ton Dieu comme toi-même, aime ton Dieu et ton prochain comme toi-même. On retrouve ça là, en fait. Hein. Aimer l'autre comme moi-même. Ce n'est possible que si nous aimons en Dieu, vraiment. Et que nous prenons conscience que tout est prière, que tout doit le devenir. Alors assurez-vous, hein, si vous avez un rendez-vous pour manger un bois avec votre meilleur ami, ça ne va pas consister, au moment où on attaque l'entrée, à vous mettre à genoux et à prier pour lui pendant qu'on mange. Il hein, faut peut-être éviter de faire ça aussi. C'est peut-être pas un bon plan. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.